Amis auditeurs de Radio Salve Regina, bienvenue à vous tous. Ce panorama info d'aujourd'hui, eh bien, ce sera à nouveau une occasion de poursuivre cette belle fête des 30 ans de la radio, puisque nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une des conférences enseignements données à l'occasion de ces 30 ans, le 19 août, au couvent Saint-Antoine, par le père Paolo Victor Lombardi, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, qui donc nous a proposé un bel enseignement sur l'évangélisation, comment annoncer le Seigneur avec les médias, par les médias. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue à tous. Et nous allons commencer par une prière en invoquant l'Esprit Saint, qu'il puisse nous aider à entrer en profondeur dans ce sujet si important pour l'Église, et l'Église d'aujourd'hui notamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu très bon, Roi éternel, Père Saint, toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour annoncer et révéler ton amour pour nous. Nous te demandons aujourd'hui ton Esprit Saint, qu'il puisse ouvrir nos cœurs, nos oreilles, pour écouter ce que tu veux nous dire cet après-midi. Te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
Bien, je remercie donc l'invitation de Nicole, du Père François-Dominique aussi. Je suis donc le Père Paolo Victor Lombardi, et nous sommes dans la joie de cette célébration des 30 ans de la radio Salve Regina. Mais ce temps de fête nous permet aussi d'essayer d'approfondir un peu la signification de cette radio, quelques thématiques importantes. Non, je sais que vous avez eu aussi un très bel enseignement ce matin. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, nous allons essayer d'approfondir l'importance des médias chrétiens. C'est un peu quelle est l'importance des médias chrétiens. C'est le thème. Et je voudrais développer ces sujets en deux parties, chacune divisée aussi en sous-parties. Dans un premier temps, nous parlerons plutôt des aspects théologiques de ce sujet-là, des aspects théologiques des médias chrétiens, pour ensuite, pour essayer de voir donc les fondements, et ensuite je voudrais vous donner quelques saints exemples, plutôt quelques exemples des saints qui s'en sont servis. Donc commençons par les commencements. Quelle est l'origine des médias chrétiens ? Quand on pose cette question de l'origine des médias chrétiens, il y en a qui diront le XXe siècle, quand la radio est née, quand la télévision est née, et on a commencé à les utiliser pour évangéliser. D'autres peut-être oseront un peu plus et diront, l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, quand on a commencé à imprimer des Bibles, par exemple, ou des livres pieux, des catéchismes, etc. Oui, c'est très bien et c'est vrai. Mais l'origine, pour trouver l'origine des médias chrétiens, il faut remonter plus loin. Il faut toujours aller plus loin dans l'Église. Si on veut chercher la tradition de l'Église, il faut toujours remonter plus loin. Et l'origine des médias chrétiens, c'est le Christ. Vous pourrez me dire, mon père, vous dites de belles phrases pieuses, mais je ne vois pas le rapport. C'est le Christ. Le Christ, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. On va citer Saint Paul tout à l'heure. L'origine de tous les médias chrétiens, c'est Jésus-Christ en son humanité. Jésus-Christ est à la fois le messager, c'est-à-dire le canal de communication, et il est aussi le message, c'est-à-dire la parole que le Père a voulu nous dire. C'est le premier. Je voudrais citer le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 516, où il est dit « Toute la vie du Christ est révélation du Père. Ses paroles, ses actes, ses silences et ses souffrances, c'est-à-dire sa manière d'être et de parler, Jésus-Christ peut dire « Qui me voit, voit le Père. » Les moindres traits de ces mystères nous montrent l'amour de Dieu pour nous. » C'est-à-dire que le Christ n'est pas seulement le message, mais c'est toute une programmation. Tout dans la vie du Christ, ses paraboles, ses miracles, sa naissance, son silence, comme il est dit, sa souffrance encore plus sur la croix, tout en Jésus-Christ nous révèle le Père, nous communique qui est Dieu et ce que Dieu a à dire pour chacun d'entre nous. Et il nous dit, comme le catéchisme nous rappelle, l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire qu'en regardant Jésus-Christ, et notamment Jésus-Christ sur la croix, pour cela au milieu de toutes nos églises trône la croix du Christ, et j'espère que chacun d'entre nous aura une croix dans sa maison, en contemplant le Christ, et surtout le Christ crucifié, nous comprenons quel est le message de Dieu pour nous. Que Jésus-Christ, de ce que Dieu nous aime tel que nous sommes, qu'il ne se scandalise pas de chacun d'entre nous, mais qu'en regardant la méchanceté du monde, en regardant la misère des hommes, qui ne sont autres que notre méchanceté et notre misère à chacun d'entre nous, la réponse de Dieu à tout ça, ça n'a pas été de supprimer le monde, ça n'a pas été de condamner les hommes, mais sa réponse a été de nous aimer et d'envoyer son Fils Jésus-Christ, qui nous a montré que cet amour n'a plus de limites, puisque Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à la dernière goutte. Vous connaissez tous l'histoire de la passion du Christ, et quand le Christ est sur la croix, le soldat vient pour être sûr de ce qu'il est mort, et avec la lance, il perce le côté du Christ, et de son côté sortent une goutte de sang, une goutte d'eau, c'est-à-dire tout ce qu'il avait encore, tout ce qui était resté, il n'y avait plus rien, il était vide à l'intérieur. Et cette croix restera pour toujours, pour tous les siècles, le signe de combien le Seigneur nous a aimés, de ce que l'amour de Dieu, la mesure de l'amour de Dieu, c'est de ne plus avoir de mesure. Et comme dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, de ce que plus rien ni personne ne pourra nous séparer de Dieu, de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà le message et le messager qui ne font qu'un, l'origine de tous les médias chrétiens. Et Saint Paul, dans la lettre à Timothée, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, au verset 4 et suivant, dira « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi, le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, un homme, qui s'est livré en rançon pour tous. » Tel est le témoignage, rendu au temps marqué et dont j'ai été établi, moi, héros et apôtre. Donc ici, en entendant cette parole de Saint Paul, on apprend trois choses, fondamentalement. On apprend que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et connaissent la vérité, ce qui n'est pas donné pour toutes les religions, pour toutes les révélations, toutes les fois, mais le Seigneur nous a révélé qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité, cette vérité donc manifestée en Jésus-Christ, comme je disais tout à l'heure, cet amour sans limite, infini du Seigneur pour nous. Mais on apprend aussi que Jésus-Christ est le médiateur, voilà le mot média qui revient, Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, et notamment Jésus-Christ dans son humanité, Jésus-Christ fait chair, fait homme. Et la troisième chose qu'on apprend, c'est que Saint Paul et chaque chrétien que nous sommes est établi héros et apôtre de cette bonne nouvelle. Chaque chrétien est évangélisateur pour que tous connaissent la vérité et puissent être sauvés. Donc chacun d'entre nous, les baptisés, qui avons connu cet amour, qui avons cru à cette médiation du Christ, nous sommes appelés à être évangélisateurs, à être apôtres de cette bonne nouvelle, à ne pas la garder pour nous, mais à l'annoncer à temps et à contre-temps. Vous commencez à voir où est-ce que la radio a entré là, mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Mais commençons par nous. Tous les chrétiens sont appelés à annoncer à temps et à contre-temps, à annoncer l'évangile. Ça veut dire que Dieu a voulu sauver le monde par l'annonce d'une parole. Une chose aussi faible, aussi banale, Dieu a voulu, Saint Paul va même plus loin, dire la sottise de la prédication. Moi je ne vais pas jusque là, je vous dis juste que Dieu a voulu sauver le monde par l'annonce d'une parole. Une parole qu'on écoute, qu'on est libre de croire ou ne pas croire, qu'on est libre de dire « ça j'ai déjà entendu plein de fois, ça c'est des choses, des clichés, des choses toutes faites, ça c'est des... » Ou qu'on peut croire et dire « ça c'est pour moi, moi j'ai besoin d'écouter cette parole ». C'est par ces moyens-là, si simples, si faibles, que Dieu a voulu sauver l'humanité, et particulièrement moi et toi, chacun d'entre nous. Et aller dans le monde entier annoncer l'évangile à toute création, c'est ce que dit Jésus ressuscité avant de monter au Père. C'est le dernier commandement du Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. le nouveau commandement qu'il nous donne, c'est « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », très bien. Mais les tout derniers commandements de Christ, avant de monter, prenez l'évangile de Marc au chapitre 16, au dernier chapitre par exemple, avant de monter au ciel, il dit « allez dans le monde entier, annoncez l'évangile à toute la création ». Donc annoncer l'évangile, c'est tout simplement accomplir le tout dernier commandement de Jésus-Christ qu'il nous a laissé. C'est bien des impératifs, aller et annoncer. Et bien sûr, pour pouvoir les faire, il faut être avec le Christ, et il faut être envoyé par le Christ. Les deux choses. Dans l'évangile de Marc, vous savez, quand Jésus, au chapitre 3, donc au tout début, j'ai parlé du chapitre 16, le dernier, mais si on va au chapitre 3, au tout début, quand Jésus choisit ses apôtres, ses disciples, Marc, il le note comme ça. Il dit, Jésus choisit ses apôtres, il choisit ceux qu'il a voulu pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher ou annoncer, ça dépend de comment on veut traduire. Donc Jésus a choisi ceux qu'il a voulu pour être avec lui et les envoyer. Même pas par la suite, mais être avec lui et les envoyer annoncer, prêcher. Ces deux choses sont d'égale importance, sont fondamentales toutes les deux. Être avec le Christ, pour être apôtre, pour être disciple déjà, même pas seulement apôtre, mais pour être disciple du Christ, il faut demeurer en lui, être avec lui, et ensuite être envoyé aussi, ensuite c'est moi qui ajoute, être envoyé, annoncer, prêcher cette bonne nouvelle. Et si cela vaut pour chaque chrétien que nous sommes, cela vaut encore plus pour l'Église tout entière. C'est l'Église qui a cette charge de demeurer avec le Christ ou de faire demeurer avec le Christ et d'envoyer annoncer l'Évangile. Donc parmi les charges de l'Église, j'imagine que vous savez tous, l'Église, pour comprendre mieux, on partage les charges de l'Église en trois rôles. Le rôle de gouverner le peuple de Dieu, de les guider, etc. Mais aussi le rôle de sanctifier et d'enseigner. Les trois munéra du Christ, c'est-à-dire les trois ministères du Christ pour son peuple que l'Église hérite en étant la continuatrice de l'œuvre du Christ. Donc parmi les tâches de l'Église, deux tâches essentielles, c'est la sanctification du peuple de Dieu et l'enseignement. Or, la radio, les médias participent à ces deux tâches-là. La radio, ou les médias en général, hein, après on va rentrer peut-être dans la radio, mais les médias en général participent en quelque sorte à ces charges-là. Toutes les émissions liturgiques, par exemple les prières, c'est-à-dire la messe, les vêpres, le chapelet, l'angélus, toutes les émissions de prières ou liturgiques ont comme mission d'aider les chrétiens à demeurer avec le Christ. Premier rôle, première mission fondamentale de tous ceux qui veulent être disciples, demeurer avec le Christ. Et ensuite, bien sûr, toutes les émissions d'homélie, d'enseignement, les histoires de vie des saints, les approfondissements de tel ou tel point de la foi, aident l'Église à enseigner, à annoncer sa parole. Donc la radio et tous les médias participent. Vous voyez un peu la ligne de fond. Il ne faut jamais perdre de vue. Sinon, il semble qu'à chaque nouvelle technologie, comme a été la radio il y a 100 ans à peu près, comme ça a été le cas de la radio, aujourd'hui Internet, la radio sur Internet, etc., on pourrait se dire, bon, c'est des moyens nouveaux ou vieux qu'on utilise pour évangéliser. Mais il faut creuser et aller plus loin. C'est une mission qui commence avec la mission du Christ lui-même. Le Christ comme le médiateur, comme le médiateur entre Dieu et les hommes, entre le Père et les hommes, le Christ qui choisit des disciples pour demeurer avec lui et les envoyer, ces disciples-là qui forment l'Église, qui a comme charge d'en sanctifier et d'enseigner, et les médias chrétiens qui aident à accomplir cette mission. C'est-à-dire l'Église se sert de médias chrétiens pour accomplir sa mission, en faisant en sorte que les fidèles puissent demeurer avec le Christ et en aidant à annoncer, à répandre la bonne nouvelle. Ça, c'est un peu la partie, disons, les aspects théologiques, de l'importance des médias chrétiens pour ne pas rester sur la surface, attention, pour toutes les thématiques dans l'Église, ça vaut aussi pour toute autre chose, de ne pas rester au superficiel, mais d'essayer de creuser. Le Concile Vatican II le va faire très bien. Par exemple, si vous prenez le décret Ad Gentes, il s'appelle comme ça, le décret Ad Gentes du Concile Vatican II, qui parle de la missionnarité, de la mission de l'Église, là aussi, toute la première partie, il va d'abord inscrire cette mission dans la mission trinitaire. Ce n'est pas l'Église qui sort pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui du prosélytisme, pour essayer de gagner de fidèles et par là de la puissance, du pouvoir, pas du tout. C'est le Père qui envoie son Fils, le Fils ressuscité qui envoie son Esprit Saint et son Église pour continuer son œuvre de salut. La mission est inscrite dans l'ADN du chrétien. Dans notre ADN de baptisé, nous avons la mission, cette tâche que la radio et les médias essayent d'accomplir là où la personne n'arrive pas. Là, on n'a pas du tête-à-tête, parce qu'on ne peut pas, les médias arrivent. C'est-à-dire, pas seulement pour ceux qui sont malades, on pense tout de suite, bien sûr, à ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à la messe, ils écoutent la radio, ils écoutent la messe, c'est vrai, c'est un côté. Mais pas seulement, quand je suis en déplacement, quand je suis en voiture, pour les personnes âgées, pour beaucoup de cas où on ne peut pas avoir ce contact, parce que tout simplement parce qu'on ne pourrait pas passer toute la journée à être ensemble, la radio et les médias chrétiens en général, la télé, Internet, les journaux, etc., nous aident à rester en contact avec le Christ et à recevoir cet enseignement de la part de l'Église de façon continue et facile. Dans cette deuxième partie, donc, je voudrais parler un peu, j'ai choisi 5 modèles, en quelque sorte, ou 5 saints qui sont des exemples pour nous, en quelque sorte, de ce côté du message, de la distance, non, de la publicité même, de répandre la parole du Christ, ou de trouver des façons d'être avec lui, même à distance. La première, je passe rapidement, parce que vous la connaissez beaucoup, beaucoup mieux que moi, c'est Sainte Claire, bien sûr, Sainte Claire d'Assise, patronne de la télévision, etc., vous connaissez très bien, non, que dans la nuit de Noël 1252, quand elle ne peut pas se déplacer, elle a la grâce de voir de sa cellule la célébration de la messe qui s'est déroulée à l'église. Hein, aujourd'hui, c'est un peu le symbole pour nous des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes malades, ou même ceux qui sont en voiture, qui sont en déplacement, qui peuvent donc écouter la parole de Dieu, qui peuvent prier, pas tout seul, mais ensemble, en communion avec une communauté à distance. Donc Sainte Claire, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer beaucoup plus, vous serez beaucoup plus capable de raconter que moi. Un deuxième, peut-être un peu moins connu malheureusement, je ne sais pas, Saint François de Sales. Saint François de Sales, qui a vécu entre le 16e et le 17e siècle, donc français, qui était élu évêque, nommé évêque de Genève, en Suisse. Mais à l'époque, vous savez, Genève était appelée la Rome protestante. Calvin, après la Réforme, donc, avait transformé Genève dans une ville tout entière, une ville calviniste, et il empêchait l'évêque catholique d'y rentrer. Donc Saint François de Sales ne pouvait pas rentrer à Genève. Et il essayait de trouver des moyens d'évangélisation, Saint François de Sales. Donc ça, c'est un saint très actuel, hein. C'est un saint, Saint François de Sales, qu'on devrait lire un peu plus, approfondir pour beaucoup de points, j'en citerai deux. Donc un de ces points, c'est, il est le patron des journalistes d'ailleurs, hein. Il va trouver des moyens, donc des affiches, il va mettre des affiches partout, il va distribuer des pamphlets, donc il va avoir toute une créativité. L'imprimerie commençait à l'époque, ça faisait un siècle et demi qu'on avait inventé l'imprimerie, donc il va s'en servir aussi pour évangéliser. Il était évêque, imaginez-vous, aujourd'hui on parle d'un évêque, d'un cardinal, si facilement, mais à l'époque il était évêque de Genève en exil à Annecy, donc c'est-à-dire qu'il devait travailler à distance, vous voyez, et donc il réfléchissait toujours à ses moyens créatifs pour pouvoir évangéliser. Ça, c'est un des points actuels de Saint François de Sales. Un autre point actuel, c'est qu'il est pratiquement le premier, je n'aime pas dire le premier parce que on peut remonter avant, bien sûr, au Moyen-Âge, mais même depuis le début de l'Église, mais dans l'époque moderne en tout cas, pour être plus simple, il est un des premiers à promouvoir l'apostolat des laïcs. Attention, dans un monde très clérical où pratiquement il n'y avait que les prêtres ou les religieux, religieuses qui évangélisaient, qui travaillaient pour l'église ici et là, et le laïcat comme on appelle un peu, n'avait pas beaucoup de voix, pas beaucoup de participation. Un des premiers à l'époque moderne à promouvoir l'apostolat de laïcs. Quand on lit le décret de Concile Vatican II sur l'apostolat de laïcs, il est vraiment d'inspiration salésienne. Et c'était très important pour l'époque. Et une troisième chose, c'est qu'il a insisté sur la dévotion adaptée selon l'état de vie. Attention, Saint François de Sales, c'est d'ailleurs sa lecture le jour de sa célébration, le 24 janvier, dans l'office de lecture. Sa lecture porte sur ça, d'ailleurs. Et l'importance de voir quel est mon état de vie et donc mon intimité avec le Seigneur, ma vie de prière, ma dévotion adaptée à cet état de vie-là. Par exemple, il dit, un moine qui est cloîtré aura sa vie de prière, sa dévotion, qui ne peut pas être la même du prêtre diocésain, par exemple d'un curé. S'il voulait vivre comme un moine qui est cloîtré, il manquerait à son devoir d'État, à son état de vie, parce qu'il a des malades à visiter, parce qu'il a des homélies à préparer, parce qu'il a ceci, il a cela. La même chose, une mère de famille qui voudrait avoir une vie de prière comme un curé ou comme un moine, une religieuse, elle manquerait à son état de vie. Mais une religieuse comme une mère de famille aussi, vous voyez ? Donc c'est-à-dire chacun, là où le Seigneur l'appelait dans sa vocation concrète, qui prend soin des malades, je n'en sais rien, chacun a son état de vie, même aujourd'hui. Je pense on est à une petite assemblée aujourd'hui, si je vous pose la question, chacun a une vie complètement différente de l'autre. Mais là, le Seigneur nous appelle à être toujours, comme je disais de l'évangile de Marc, être avec lui et être envoyé pour annoncer. Et donc, bien sûr, on est avec lui si on a notre vie des prières, si on a notre... C'est qu'il appelait la dévotion. Aujourd'hui, c'est un mot un peu, peut-être, qui a perdu son sens premier. Donc, pour ça que je le mets toujours entre guillemets. La dévotion, aujourd'hui, c'est devenu un peu le symbole d'une piété peut-être un peu mielleuse. Mais non, quand il parle de dévotion, il parle de la vie de foi, attention, hein, de l'intimité avec le Seigneur, de la prière profonde, etc. Et donc, pour demeurer avec le Christ et pouvoir être envoyé. Donc, Saint François de Sales, un deuxième exemple de saint médiatique, si on peut l'appeler comme ça. Troisième, beaucoup plus proche de nous, au XXe siècle déjà, Saint Maximilien Marie, Colbert, bien sûr. Saint Maximilien Marie, donc, franciscain, conventuel, personne n'est parfait. Et lui, au début du XXe siècle, donc, en 1927, vous savez, en Pologne, parce que Saint Maximilien Marie, on l'a célébré l'autre jour, hein, lundi, avant, toujours la veille de l'Assomption. Peut-être vous connaissez beaucoup, vous étudiez, j'en sais rien, je vous connais à peine les uns plus que les autres, mais je ne connais pas tout le monde ici, encore moins ceux qui nous écoutent. Mais quand on pense à lui, on pense, il y a deux choses, on pense à l'Immaculée, à sa dévotion vraiment profonde à l'Immaculée Conception, et on pense bien sûr à son martyre au camp de concentration, etc. On pense à ces deux choses-là, qui a donné sa vie d'ailleurs à la place d'un père de famille. Bon, bref, c'est pas le moment maintenant. Et ces deux choses sont fondamentales, bien sûr, mais il y a plus. C'est un grand missionnaire. Il va fonder à 40 km de Varsovie, donc polonais, en 1927, donc bien avant la guerre, il va fonder à 40 km de Varsovie la ville de l'Immaculée. La ville de l'Immaculée, ça s'appelle comme ça, je serais incapable de le prononcer en polonais, je vous dis en français, la ville de l'Immaculée, le village plutôt, de l'Immaculée, où donc, avec 800 frères, hein, dans son apogée, il y a 800 frères, avec un journal, maison d'édition, plus qu'un journal, maison d'édition, et une radio. Lui-même, il était radioamateur, non, mais une radio avec laquelle il va travailler pour l'évangélisation. Et la radio commençait à peine, hein, c'était au tout début, voilà. Et donc ensuite, il part au Japon, un grand missionnaire au Japon, Saint-Maximilien Marie. Et là, il va faire la même chose. Il va fonder sur une colline, une montagne à côté de Nagasaki, de la ville, la même chose, un couvent, une ville de l'Immaculée. Là, c'est l'appeler, il me semble, le jardin de l'Immaculée. À vérifier, mais il me semble le jardin de l'Immaculée. Et là-bas, la même chose. Maison d'édition, radio pour les Japonais. Et pour la petite histoire, quand la bombe est tombée en 1945, le 9 août, la seule chose qui est restée debout, c'est son couvent. protégée par la montagne, par la pente, mais quand même, à l'étonnement de tous, à la surprise de tous, le couvent est resté debout quand la bombe est tombée, malheureusement, le 9 août 1945. Après, elle va essayer ailleurs aussi, dans les Indes britanniques, avoir un peu moins de succès, mais on ne cherche pas le succès. En tout cas, il a essayé, vous voyez. En Pologne, il y a eu beaucoup de succès. Et ensuite, il s'est déplacé et il a donné sa vie comme martyr. Donc, sa mission a été grandiose. Et, qui de plus ? Quatrième exemple, la radio Vatican, hein, la radio du Vatican. Là aussi, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. C'est à l'époque de Pie XI, en 1931, donc là, à nouveau au XXe siècle, que l'inventeur de la radio, Marconi, l'inventeur de la radio, va dire au pape qu'il avait ce désir de doter le Vatican, dans les jardins du Vatican, d'une station radio. Et le pape va dire oui, et donc il va être tout enthousiasmé par cette nouvelle méthode, ce nouveau moyen de communication sociale. Et à la première émission, le pape Pie XI va commencer, bon, je ne sais pas, je pensais un peu à la Corse, le pape Pie XI va commencer son émission en citant la Bible, en disant « Écoutez, écoutez, peuple lointain ». Je dis pour la partie insulaire. Hein. « Écoutez, écoutez, peuple lointain ». Il disait que cette parole s'accomplissait maintenant avec la radio. Et il commence donc avec ces vocatifs-là. Et ensuite, il ajoute que ce soit notre première parole, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et il remercie Dieu d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir sur la création, sur la communication, très importante, la radio du Vatican, notamment à l'époque de Pie XII, donc son successeur, et à l'époque de la guerre. À l'époque de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, là aussi, on est dans la continuité malheureusement, et le pape Pie XII, par exemple, hein, il va être très connu par ses messages radiophoniques, très très connu, par exemple, en 1939, à peine un mois avant la guerre, quand il sent que la tension monte, il va faire un appel à la paix, pas écouter, pas exaucer, mais il va faire un appel à la paix à travers la radio. Pie XII. Ensuite, c'est très connu aussi, peut-être le plus célèbre de ces messages, c'est le message de la nuit de Noël 42, nuit de Noël 1942, où Pie XII, on trouve facilement sur Internet, hein, vous mettez message radio Pie XII, Noël 42, tout de suite, sur le site Vatican ou autre, vous les trouvez, hein. C'est très intéressant, où il va dire, en pleine guerre, hein, il va avoir le courage, quoi qu'on dise, il va avoir le courage de dénoncer. Il va dire qu'il dénonce des centaines de milliers de personnes qui parfois, pour le seul fait de leur nationalité ou pour le seul fait de leur race, ont été vouées à la mort ou à une extermination progressive. Tout ça, il va le dire à la radio, publiquement. Publiquement, n'importe qui pouvait l'écouter, sans aucune peur. Vous voyez ? Donc l'importance de ces moyens de communication là. Et le tout dernier, pour conclure aussi notre réflexion de cet après-midi, c'est Carlo Acutis. Carlo Acutis, bien sûr, je sais que plusieurs d'entre vous êtes allés à Assise, vous l'avez vu, non ? Son corps repose à Assise, donc beaucoup plus proche de nous. Il est mort à 15 ans en 2016, hein, tout jeune. Et lui aussi, il a voulu créer ce site internet pour divulguer plus de 100 miracles eucharistiques, pour faire connaître, et là aussi, avec un dévotionnisme, avec une rigueur historique, scientifique, pour informer, toujours ce souci de communiquer, d'informer, de renseigner les gens. Et vous savez qu'après, ce travail qu'il a fait est devenu une exposition mondiale qui fait le tour du monde aujourd'hui sur les miracles eucharistiques. Donc là aussi, quelqu'un qui a vu, déjà, donc il est mort à 15 ans, à 14 ans à peine, son curé, en voyant qu'il était un geek, comme on dit aujourd'hui, non, un geek saint, en voyant qu'il s'y connaissait bien en informatique et tout le reste, va lui demander de faire le site paroissial, ce qu'il va faire, et ensuite c'est lui-même, c'est de sa propre initiative qu'il voulait donc faire connaître avec cette dévotion qu'il avait pour l'Eucharistie, pour l'adoration eucharistique notamment, en se disant que de même qu'on bronze au soleil, c'est la saison pour le dire, de même quand on est face au Christ, on devient saint. On bronze, on est sainteté, on devient saint quand on est proche de Christ. Et donc c'est lui-même pour faire connaître et faire aimer l'Eucharistie qui va divulguer, qui va créer ce site de plus de 100 miracles eucharistiques. Donc, mes frères, c'est très important de soutenir. La radio, c'est un moyen de communication, c'est-à-dire d'évangélisation, qui est facile, d'accès gratuit, d'accès large, qui touche beaucoup de monde. Quand on est en voiture, je citais notamment, mais pas seulement. Combien de personnes n'auront pas été aidés et touchés depuis 30 ans, même de façon discrète. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne remontent pas. Tout le monde n'a pas le déclic de venir remercier ou d'appeler la radio. Mais combien de personnes en deuil, au milieu des bouchons sans fin que nous trouvons parfois dans notre cher Bastia, à toutes les heures, combien de personnes n'auront allumer la radio Salve Regina ou alors chercher une radio et par hasard, le hasard de l'Esprit Saint sont tombés sur les ondes de Salve Regina et ont écouté une phrase, un mot, peut-être une homélie, peut-être un psaume pendant les vêtres, peut-être un chant à la messe, peut-être une émission sous la vie d'un saint ou quand on a creusé tel ou tel mot de la Bible, j'en sais rien, mais combien de personnes n'auront écouté une phrase, un mot qui les ont touchés, qui les ont aidés dans la souffrance, qui viennent de sortir du médecin, de chez le médecin, qui ont eu peut-être un résultat d'examen qui n'était pas très beau, comme on dit en bon français, vous voyez, et qu'en sortant dans cette angoisse, dans cette peur, dans cette recherche de sens pour la vie, pour ceux qu'ils traversent, en allumant la radio, tout de suite, le Seigneur a parlé. Le Seigneur nous parle vraiment, mes frères, il faut être attentif. Le Seigneur nous parle par les choses les plus petites, les choses les plus qu'on ne donne pas beaucoup d'importance. Le Seigneur, nous apprenons en lisant la Bible, Dieu est en dialogue constant avec nous. Dieu n'est pas là-haut dans le ciel en nous disant « Maintenant, débrouillez-vous comme vous pouvez, faites pour le mieux ». Pas du tout. Dieu est en dialogue constant avec chacun d'entre nous. Et comment dialogue-t-il avec nous? À travers l'histoire, à travers les événements de l'histoire. Ton histoire, du matin au soir, tout ce qui t'arrive, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Et encore faut-il le décoder, encore faut-il comprendre ce langage-là. Or, la parole de Dieu, l'annonce de l'évangile, la prière, les psaumes notamment, l'évangile, les vêpres, tout ça nous aide à avoir ce discernement, à recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cet événement-là concret? Pourquoi maintenant je subis cela? Pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi moi et non pas mon voisin ou mon cousin? Pourquoi ma mère et non pas celle de l'autre? Pourquoi? Et le Seigneur t'éclaire, peut-être, avec beaucoup de pédagogie, il te fait comprendre qu'en tout cas, il ne t'abandonnera jamais, que quoi qu'il arrive, il est avec toi, que Jésus-Christ, comme je disais au tout début, par sa croix et sa mort et sa résurrection, t'a montré que désormais, la mort, le mal, la souffrance n'ont pas le dernier mot. Au contraire, que la souffrance peut être salvatrice, peut être source de salut pour toi, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et parce que Dieu, de tout mal, peut en tirer en bien. Ça, c'est l'art divin par excellence. L'art divin. Seul Dieu peut le faire. Du mal absolu qui a été la mort des innocents, la mort de son fils qui n'a rien fait, qui est venu pour annoncer l'amour du Père, de cet événement-là, du mal absolu, de la tuerie du Fils, du meurtre du Fils de Dieu que nous avons commis par nos péchés, de ce mal-là, Dieu a tiré le plus grand bien de tous, c'est-à-dire le salut de l'humanité, la résurrection, la vie nouvelle, l'adoption filiale. Et tout cela, nous pouvons creuser, nous pouvons renouveler, parce que cette bonne nouvelle du kérigme, il ne faut pas l'écouter une fois pour toutes. Le pape François nous les rappelle dans la joie de l'évangile. Vous savez, parfois dans l'église, pendant des siècles et des siècles, on a eu un peu cette tentation. Il faut annoncer Jésus-Christ pour convertir les personnes. Vous savez, je convertis quelqu'un en annonçant Jésus-Christ, son amour pour elle, qui est Dieu, la mort sur la croix, la résurrection, la bonne nouvelle, le kérigme. Et une fois que tu t'es converti, maintenant c'est de l'entretien. Il faut entretenir, il faut creuser tel ou tel point du catéchisme, il faut écouter les sermons, comme on disait autrefois, les homélies des prêtres, etc. Non, le pape François, dans Joie de l'Évangile, dit que le kérigme n'est pas seulement la première annonce, mais c'est le cœur de toute annonce. Il faut le répéter, on a besoin, parce qu'on oublie, parce qu'on est faible, parce que les démons nous trompent, parce que, en même temps qu'on écoute la bonne nouvelle, quelque chose dans notre oreille nous dit « Mais c'est pas vrai, tu méritais mieux que ça, Dieu ne t'aime pas, s'il t'aimait, il t'aurait jamais permis cela, etc., etc., etc. » Donc on a besoin de réécouter, d'entendre à nouveau la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, encore et encore. Et là, les médias, en particulier la radio, puisque nous en parlons aujourd'hui, sont là à notre service, à ton service. Donc l'importance de soutenir, c'est un privilège à Bastia. Vous imaginez pas combien des villes voudraient avoir une radio catholique, chrétienne, neutrale, non, comme on est, c'est-à-dire une radio typiquement d'ici, ouverte aussi, bien sûr. On reçoit des émissions d'ailleurs, ouvertes. Le christianisme n'est jamais enfermé, n'est jamais quelque chose de clos, attention. Hein. On est des citoyens du monde. Hein. Le Seigneur nous dit, on est toujours des étrangers ici, et notre patrie dans le ciel. Donc je sais très bien que Salve Regina, c'est une radio ouverte. Mais et en même temps, c'est d'ici, c'est de Bastia. C'est, elle est à côté, en bas du couvent. Voilà. C'est-à-dire que c'est un privilège pour nous. Il faut le soutenir, il faut l'écouter, il faut l'aider par des moyens financiers, bien entendu, mais pas seulement. De tous les moyens de pouvoir apporter le soutien. C'est important, c'est indispensable pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont chrétiens, parce que ça nous permet d'être avec le Seigneur, de recevoir un enseignement. Pour ceux qui ne le sont pas, comme je disais, parce qu'en allumant, même par erreur, en allumant la radio, peuvent recevoir une parole. Donc vraiment, j'espère que cette journée de fête, de joie, vraiment, je félicite tous ceux qui ont travaillé pendant 30 ans, qu'elle puisse aussi nous aider à prendre conscience de l'importance de cette radio, de tous médias chrétiens, bien sûr, de tous les médias chrétiens, que le Seigneur puisse nous aider aussi à trouver toujours des façons innovatives. J'espère que ceux qui sont responsables de la programmation aussi puissent toujours avoir de nouvelles idées. Je sais qu'ils sont très créatifs et qu'ils puissent toujours être inspirés pour que le Seigneur puisse, comme nous dit Saint Paul, pour que nous, on puisse, à temps et à contre-temps, annoncer l'Évangile, parce que, nous dit Saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est la seule chose, depuis que le Christ est venu sur terre, c'est la seule chose qui importe vraiment, vraiment, au fond. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses bonnes dans la vie, et grâce à Dieu, c'est tous des signes de l'amour de Dieu, des traces de l'amour de Dieu, des avant-goûts de l'éternité, les personnes que nous rencontrons, les moments que nous vivons de communion, d'amour, de bonheur entre nous, tout ça c'est déjà des traces de l'amour de Dieu et des avant-goûts de la vie éternelle, c'est vrai. Mais la tâche la plus importante pour nous, c'est d'annoncer l'Évangile. Dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, l'homme qui est condamné à vivre pour lui-même, le Christ est mort et ressuscité pour que ceux qui vivent pour eux-mêmes, c'est-à-dire chacun d'entre nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça qui importe maintenant, mes frères, pour nous les chrétiens. Une fois que nous avons rencontré cet amour qui nous a pardonné, qui ne nous a pas jugé, qui ne s'est pas scandalisé de nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon l'annoncer pour que d'autres puissent le connaître et le recevoir aussi. Félicitations à tous, bonne fête, bonne continuation et merci beaucoup.
Voilà, mes auditeurs, vous venez de suivre un enseignement donné par le père Paolo Victor Lombardi, qui est vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Bastia, et également avec un mi-temps consacré au chemin néocatéchuménal, aux communautés du chemin néocatéchuménal, et qui nous proposait donc une conférence sur le thème de l'évangélisation par les médias. Merci à tous pour votre écoute. Notre programme se continue. Restez avec nous.